Grand Amphi, rue des Écoles, Louise Touré.
Et cette semaine, Marie-Caroline Missire s'entretient avec Olivier Houllier, professeur de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille. Quasi inconnu en France, son travail est reconnu et utilisé par des fondations et des gouvernements étrangers. Les applications issues de la recherche en neurosciences sont encore mal perçues chez nous. Elles suscitent même une certaine méfiance de la part des décideurs publics. Nous avons demandé donc à Olivier Houllier ce qu'il pensait de cet état de fait.
Olivier Houllier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences à l'université d'Aix-Marseille. Alors, d'après vous, quelle place occupent les neurosciences dans le paysage universitaire français ?
La France est un pays qui est un leader mondial en neurosciences. Et les études, elles vont de la molécule, des cellules dans le cerveau, jusqu'à la compréhension du comportement. Comment on prend des décisions, comment on apprend, tout ça. On a des spécialistes qui sont reconnus dans le monde entier. Donc, c'est vraiment une discipline de recherche qui est à l'interface de la biologie, mais aussi des sciences comportementales, avec la psychologie notamment. Il est très difficile, dans ce que je fais moi, de séparer l'aspect psychologique comportemental du fonctionnement du cerveau. Au niveau du système de recherche, en l'état actuel, la discipline que sont les neurosciences est reconnue. Je suis forcément biaisé, j'aimerais qu'il y en ait encore plus, notamment pour la psychologie et les neurosciences, mais c'est très bien. Bien évidemment, en comparaison de certains financements, notamment dans les pays anglo-saxons, on est en dessous. Mais je pense que les neurosciences en France font quand même pas mal d'envieux en ce qui concerne les financements de recherche et l'intérêt qui est fait, encore une fois, du côté de la recherche purement académique. Si on parle du pont entre recherche académique et secteur privé, recherche académique et politique publique, il en est tout autrement.
Que pourraient apporter les neurosciences aux politiques publiques ? Donnez-nous un exemple précis, Olivier Houllier.
Au quotidien, quoi que l'on fasse, on a besoin de notre cerveau. C'est un peu une tarte à la crème, mais c'est bon de le rappeler dans la mesure où, lorsqu'on décide des politiques publiques, on prend très peu en compte ce que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau des gens. Prenez la lutte contre l'obésité, par exemple. Il a fallu attendre 2010 pour qu'il y ait le premier rapport gouvernemental qui inclut des travaux de neurosciences sur la décision de consommation et pas uniquement sur l'endocrinologie. On a d'autres aspects qui peuvent être couverts. Le développement durable, la finance, l'éducation, la loi. Tout ça a commencé à être pris en compte en France dès 2009 avec un programme qui était assez innovant qui s'appelait Neurosciences et Politiques Publiques, qui a bien évidemment depuis été enterré.
Vous avez fait partie du Centre d'analyse stratégique. C'est une institution qui était placée auprès du Premier ministre et qui a disparu en 2012, remplacée par une autre instance. Vous avez travaillé sur quel sujet ? Vous avez conseillé des décideurs publics à ce moment-là et quels fruits ça a apporté ?
Le Centre d'analyse stratégique a conduit de 2009 à 2012 un programme qui s'appelle Neurosciences et Politiques Publiques, qui était une première mondiale. Le premier rapport qu'on a publié était sur l'utilisation des neurosciences et des sciences comportementales en général pour lutter contre l'obésité, le tabac et d'autres problèmes de santé publique. Mieux comprendre comment les gens prennent des décisions, sont influencés par le marketing, par exemple, de l'industrie agroalimentaire, du tabac, et comment, à partir de cette meilleure compréhension, on peut mieux communiquer avec les gens. Arriver à lutter par la compréhension du fonctionnement du cerveau contre certaines idées reçues, comme quoi il faut à tout prix faire peur aux gens, utiliser la surprise plutôt que la peur. Comment réguler l'ensemble des communications que l'on peut faire sans saturer le cerveau, sans faire en sorte que les gens se braquent. Toutes ces choses-là sont des éléments qu'on a compilés, y compris avec des recherches inédites qu'on a mises dans ce rapport, qui a été dans sa grande majorité complètement ignoré des pouvoirs publics français, mais qui a reçu un bon écho international parce qu'on avait réussi à le faire traduire et qui a été repris dans une dizaine de pays et notamment par le Forum économique mondial. Néanmoins, après la disparition du Centre d'analyse stratégique, il y a un audit qui a été fait par la nouvelle administration et qui a reconnu qu'un des apports des travaux qu'on avait fait avait été la mise en place sur les paquets de cigarettes des images dites chocs, les avertissements graphiques qui venaient compléter les avertissements textuels puisqu'on avait montré un des effets que ça pouvait avoir sur le cerveau des gens qui fument.
Comment vous expliquez que les décideurs publics, que les personnes qui travaillent dans les cabinets, les ministres, ne tiennent pas compte de ces travaux ? Vous l'avez dit à l'instant, ce programme n'a pas été suivi et a été mis de côté. Comment vous l'expliquez ça ?
Ça vient de la formation des gens qui sont en charge dans l'administration française. On n'enseigne pas les sciences comportementales et les neurosciences à l'ENA. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, on ne va pas faire des cours de biologie à l'ENA. Néanmoins, lorsque la neurobiologie peut apporter des éléments de compréhension au fonctionnement de l'individu, au fonctionnement de la société, sans expliquer, décrypter tout, bien évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a vraiment des éléments de compréhension qui peuvent permettre d'élaborer des politiques publiques qui vont être plus efficaces et moins onéreuses. Malheureusement, ça ne fait pas partie du cursus aujourd'hui de la plupart des gens qui sont en charge dans l'administration française, les directeurs de cabinet. Si vous prenez l'étranger, on est assez souvent sollicité pour venir conseiller les gouvernements, pour venir discuter avec les directeurs de cabinet, qui prennent en compte ces informations de plus en plus. Et que ce soit le secteur public ou le secteur privé, je pense que des gens qui ont une vision qui n'est pas franco-française des politiques publiques et du fonctionnement d'une organisation en général, que cette organisation elle soit publique, privée, que ce soit une ONG, ont compris très rapidement que laisser l'ensemble des décisions à des gens qui utilisent des modèles de décision très rationnels, à savoir on va peser le pour et le contre, si on informe les gens, ils vont prendre les bonnes décisions, c'est quelque chose qui est complètement obsolète. Pas besoin de faire des études pour se rendre compte que informer les gens ne suffit pas. Si ça suffisait, les médecins auraient arrêté de fumer depuis la belle lurette. C'est pas le cas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de décisions qui sont prises dans de grandes administrations françaises sur la base de quoi ? Sur la base de modèles économiques standards, c'est-à-dire l'homme rationnel, sur la base de contraintes légales, donc les économistes et le droit, et sur la base de recherches, mais ces recherches sont principalement des sondages. Et on sait à quel point c'est biaisé. Néanmoins, aujourd'hui, de par le monde, c'est pas uniquement la France, mais en France, on est quand même assez spécialiste de dépenser des fortunes pour avoir des informations qui émanent de données où on a demandé aux gens qu'est-ce que vous faites, pourquoi, etc. Et on croit ce que les gens disent. Or, une des choses que nous montrent la psychologie et les neurosciences, c'est à quel point il est facile de biaiser un sondage sans s'en rendre compte, que des gens de très bonne foi vont pouvoir donner des informations qui ne sont pas exactes à minima, sans parler du fait qu'on puisse mentir lorsqu'on nous pose des questions. Et il y a de plus en plus de travaux qui montrent que, dans certains cas, on arrive à mieux prédire si un message va être retenu sur la base de l'activité du cerveau et de tests psychologiques, pas uniquement l'activité du cerveau, en comparaison de ce que pourrait être un sondage, par exemple.
Olivier Houllier, quelles applications pour les étudiants ?
Ce qui est assez intéressant, et pas uniquement au sein de l'université, c'est dans les écoles en général. Si demain, on fait courir un marathon à un gamin de 10 ans, les parents vont être fous furieux. Ils auront raison. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas respecté la physiologie de l'enfant. On sait qu'il ne faut pas faire ce genre de choses à un enfant. On a exactement le même type de données quant au format et au contenu d'enseignement. C'est-à-dire que depuis maintenant plus de 15 ans, on accumule des données de recherche de par le monde sur le niveau d'attention, la mémorisation, toutes ces choses que le cerveau et que l'étude du cerveau nous permettent de mieux comprendre. Néanmoins, ce qui est complètement hallucinant pour moi, c'est que à l'heure où enfin la santé publique utilise les neurosciences pour lutter contre l'obésité, le tabac, où les administrations en économie, en finance s'interrogent sur l'apport des neurosciences, même le développement durable, l'éducation est un des derniers domaines publics dans lequel on n'utilise pas ces connaissances. Et c'est d'autant plus dommageable qu'on est en train de parler du fonctionnement du futur de la nation, nos enfants. Et éduquer nos enfants sans prendre en compte leurs caractéristiques, c'est quelque chose qui est complètement aberrant de mon point de vue. D'autant qu'on a de gros spécialistes reconnus mondialement des questions de langage, de mémorisation, d'attention liées au cerveau en France. Prenez Olivier Houdet, prenez Stanislas Dehaene, sont des gens qui sont connus internationalement et... À titre personnel, j'aimerais qu'on les écoute beaucoup plus dans les cabinets. Alors peut-être qu'ils sont entendus et que je ne suis pas au courant. À ma connaissance, je pense qu'on ne les écoute pas assez.
Et si on suivait les applications des neurosciences à la fac, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, supprimer les cours magistraux, par exemple ?
Alors, pour prendre de telles décisions, il faudrait faire des expériences. Moi, je ne prends pas des décisions à partir de données scientifiques. Ce que j'ai essayé de promouvoir dans le programme que je dirigeais au centre d'analyse stratégique, c'est de faire en sorte que les politiques publiques aient des décisions qui soient éclairées par des données. Donc il faut tester. Il faut tester plusieurs formats. Ces formats qu'on va tester vont être définis sur la base de connaissances scientifiques. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut révolutionner tout à l'aune des connaissances en neurosciences uniquement. Ce serait complètement idiot. Par contre, ignorer les connaissances en neurosciences est tout aussi idiot. Aujourd'hui, il y a une espèce d'antagonisme qui existe entre, d'un côté, les sciences humaines et sociales, et puis ce qui serait plus de l'ordre des neurosciences et de la biologie, qui, pour moi, n'a pas lieu d'être lorsqu'on parle de politique publique. On doit être informé par les sociologues, on doit être informé par les psychologues, les sciences cognitives et les neurosciences. Et l'argument tarte à la crème, qui est que les connaissances en sciences du cerveau sont aujourd'hui pas suffisantes pour tout expliquer, mais si... On attendait qu'un champ scientifique, que ce soit l'économie ou un champ médical, soit sûr à 100% pour l'utiliser. On n'utiliserait rien du tout. Les économistes se plantent tous les jours. Les médecins, suivant ce qu'ils font, font des essais, des erreurs sur les traitements. C'est exactement pareil pour les politiques publiques.
Olivier Houllier, dernière question. Est-ce qu'à votre avis, la recherche peut sauver la politique ou au moins l'aider ?
La politique, j'en sais rien. Les politiques publiques financent la recherche en France et à l'étranger. Et c'est quand même à fond perdu si on n'utilise pas certaines de ces connaissances qui peuvent permettre de mieux tester avant d'implémenter, de déployer, et surtout d'avoir un meilleur rapport coût-gain et faire des économies, rendre nos politiques publiques plus efficaces et moins coûteuses.
Merci beaucoup Olivier Houllier.
À lire aussi le blog de Marie-Caroline sur l'express.fr avec une interview d'Olivier Houllier sur les neurosciences et les apprentissages scolaires.